Alors, je monte là-dessus.
Ah, non, mais t'es pas obligé, t'as envie?
Bah, je sais pas, on m'a dit.
Oh, pourquoi? Oh, mais t'inquiète pas. Fais ce que tu veux. Hein?
Ah, non, non, moi, je veux.
Là, il n'y a pas besoin de monter là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Casse-gueule. Bon.
Non, non.
Il n'y a pas besoin.
On va faire un claquette.
Oui, c'est ça. C'est pas
comment
si...
c'est?
Vas-y, t'as l'idée.
Bon. Alors, tu dis quelque chose?
Non.
Tu n'as rien dit.
Qu'est-ce que c'est que ce miracle de l'eau?
Alors, je ne sais pas. Il faudrait que les derniers de bon.
C'est pas assez fort ou pas assez frais?
Alors, bon, je n'ai pas une voix trop faible.
Ça y est, c'est
bon. Bien. Alors voilà, vous avez vu ce film qui avait mis l'eau à la bouche, j'espère, et qui pose beaucoup plus de questions que de solutions. Bon, je crois qu'il a déjà quelques années, et tout va très vite actuellement, comme vous le constatez. Et se bouscule un peu actuellement des explications qui vont donner, je dirais, toute sa magnificence et la majesté à l'eau que l'on découvre actuellement. Alors, comme ces messieurs du film, ces scientifiques disent, Aurélie ne comprennent pas tellement comment l'eau fonctionne, je vais vous faire, moi, un petit exposé qui est un peu le résultat de mes recherches personnelles, qui sont, je dirais, depuis 26 ans que j'étudie l'eau. Et ce qui m'a donné un avantage sur tous les scientifiques du monde, c'est que j'ai commencé avec une page blanche, alors que je ne connaissais rien du tout. Donc, ça a été un avantage dans la mesure où je me suis aperçu que lorsque j'ai abordé l'eau, il y a 26 ans, j'avais déjà 56 ans, et il y a eu un changement majeur dans ma vie, dont je ne vais pas tout vous raconter, où tout a basculé, si vous voulez, puisque je travaillais dans une grande société pétrolière, partout dans le monde, et puis tout d'un coup, il s'est passé une chose incroyable. Bon, vous savez, j'étais un peu dans le stress, dans toutes sortes de problèmes que vous connaissez peut-être certains. Et j'étais au bord du cancer du côlon. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est ça qui m'a décidé de changer complètement d'activité et de remettre à zéro un peu mon histoire. Donc ça s'est passé en 1988-89. Et comment se fait-il que je suis passé dans l'eau? Ben, il s'est passé par des concours de circonstances qui ne sont pas dus au hasard. Puisque j'avais lâché le trapèze, je n'avais pas attrapé l'autre encore. Donc j'étais entre les deux. Et là, on a un moment d'angoisse. On est dans le vide. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai rencontré des gens adéquats. Des gens qui avaient déjà commencé à travailler sur l'eau, bien sûr, mais on en était encore au balbutiement. Mais tout de même, on avait tout de même pas mal, je dirais, d'informations qui nous permettaient de comprendre un peu ce qui se passe dans ce film-là, que vous avez vu tout à l'heure. Mais curieusement, vous voyez, il y a peu de communication dans le milieu scientifique mondial. Chacun garde un peu, dans son précaré, comme je dis, les connaissances qu'il peut avoir. Et c'est bien dommage. Parce qu'en définitive, ces messieurs là, qui ont exposé l'eau et qui disaient bah, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais on constate que cette eau a des particularités de mémoire, des particularités électromagnétiques précises, etc. Et en définitive, on s'aperçoit que cette eau, de plus en plus, eh bien, est omniprésente et surtout omnisciente. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est quand j'ai commencé à faire le tour des instituts, des gens qui faisaient de la recherche, je me suis aperçu que tout le monde ignorait. et c'était un moment absolument de stupéfaction. En médecine, par exemple, il est évident que l'eau est complètement inconnue. En 7 années d'études de médecine, il n'y a même pas une heure de cours sur l'eau. Je me suis aperçu aussi qu'en biologie, dans les cours qui sont donnés dans les universités, on ne parle même pas de l'eau. Alors que toute notre biologie, et de notre corps et du vivant en général, fonctionne strictement avec l'eau. Et à tel point qu'elle fonctionne avec l'eau, qu'on a découvert, et ça c'est précisément Jacques-Paul Béniste, avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer dans les années 90, jusqu'à sa mort en 2004, eh bien, il me disait, tu sais, l'eau c'est plus qu'on imagine. C'est-à-dire, on vous dit, oui, c'est le poids du corps, 65, 70% du poids du corps, c'est bon, peut-être. Mais ça dépend à quel âge, ça dépend au début ou à la fin de la vie. On est toujours dans un phénomène de déshydratation permanente. C'est ça le drame aussi de notre dégénérescence. Et vous allez voir qu'il m'a dit une chose qui m'a tout de même impressionné. Vous savez, si on fait le compte de toutes les molécules qu'il y a dans un corps, les molécules d'eau, par rapport aux restantes molécules, c'est-à-dire le reste, le potassium, le calcium, tout ce que vous voulez imaginer, les molécules d'eau représentent 99% de toutes les molécules que vous avez dans le corps. Donc, vous voyez, c'est énorme. Vous n'êtes que de l'eau. C'est-à-dire, quand je dis 99%, la moindre petite protéine, le petit atome dans votre corps, il faut déplacer 99 molécules d'eau avant d'arriver à la matière. Donc cette eau-là n'est pas par là. Et c'est incroyable de savoir qu'actuellement on l'ignore complètement. Et j'ai compris pourquoi on l'ignorait. Parce que, en fait, cette eau, elle est omnisciente. Ça veut dire quoi, omnisciente? C'est-à-dire qu'il faut être à la fois physicien, chimiste, biologiste, faire de la physique quantique, être médecin, etc., pour comprendre et commencer à comprendre ce que c'est que l'eau. Donc, l'eau balaye toutes les connaissances humaines. Et malheureusement, nous sommes actuellement dans une société de spécialisation, de spécialistes. Donc, nous sommes descendus à un tel niveau d'analyse, je dirais, que la science est devenue actuellement une véritable tour de Babel. Moi, j'ai pu constater que, par exemple, dans un congrès auquel j'avais assisté il y a très longtemps, c'était aux États-Unis, j'étais dans le téléphone, dans un hôtel, il y avait un congrès de chimistes et de physiciens. Et à la fin, ils se sont rencontrés en se disant, on ne savait pas qu'on était ensemble, eh bien, on va faire un petit colloque, je dirais, commun. Ils se sont rencontrés, ils ont échangé, je dirais, un peu leurs connaissances, par rapport à la physique et à la chimie. Eh bien, la surprise, c'est qu'ils ne se sont pas compris. Ça a été une espèce de cacophonie totale, chacun avec leur terminologie que l'autre ne comprenait pas. Donc c'est comme ça, maintenant. Aller interroger un chimiste et parler lui de l'eau, rien. Eh bien, j'ai pu être invité dans une université, notamment à Marseille, à Nîmes, par des étudiants en biologie qui m'ont demandé, monsieur, tout à l'heure, on sait que vous avez écrit des livres sur l'eau, mais même en biologie, on n'en parle pas. On dit que c'est nécessaire pour un final. Alors que cette eau, comme je vais vous l'expliquer, vous allez voir comment elle fonctionne à l'intérieur de notre corps. Et c'est quelque chose d'énorme. Et on passe notre temps à contrarier tout ça. Donc, voir les mauvaises eaux, avoir bien sûr une hygiène de vie déplorable, et notre biologie est obligée d'accepter tout ça, et de se conformer à tout ce que l'on dit. Il n'est pas étonnant que nous sommes sur des terrains de dégénérescence très rapides, et que 94%, paraît-il, des gens meurent malades à l'hôpital. Alors qu'on ne devrait jamais mourir malade. J'ai aucune prétention. Je suis un homme, je dirais, comme vous tous. J'ai commencé à étudier l'eau. Vous verrez, je la vois d'une certaine façon, je la fabrique, puisqu'on a tout. On a tout détruit. Par conséquent, cette eau, elle possède un trésor immense, vous l'avez, à l'intérieur du corps, mais elle ne fonctionne plus, ou très mal. Et en plus, les eaux que vous vivez, beaucoup, sont des eaux qui sont, et qui vous placent sur le terrain de dégénérescence. Et en France, il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui ont été faites, on en parlait aussi tout à l'heure. Car messieurs qui ont exposé des choses très intéressantes et qui sont vraies, avaient connu les travaux de certains confrères français, ils auraient compris que, effectivement, cette eau recèle en elle-même, je dirais, toute la connaissance de l'univers. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand on va rentrer dans cette magie de l'eau, eh bien, vous allez voir que progressivement, votre corps va reprendre sa résonance avec l'univers. Mais ça, ce n'est pas du jour au lendemain. L'eau s'apprivoise. Et vous voyez, quand j'ai parlé aux biologistes qui étaient là-bas à l'université de Miami, tous ces étudiants, ils étaient stupéfaits de la façon dont j'ai parlé de l'eau. Mais jamais on nous en a parlé comme ça en biologie. Bien sûr, en biologie, on dit, j'ai dit, c'est évident, vous biologie, en fait, vous étudiez un cadavre. Alors que l'eau amène la dynamique de notre biologie. C'est elle qui va effectivement apporter toutes les informations, aussi bien au niveau physico-chimique, qu'au niveau électronique, et qu'au niveau purement informationnel et énergétique. Quand vous avez fait le tour de tout ça, et que vous maîtrisez tous ces paramètres, vous n'avez aucun problème de santé. Ça, je peux vous le dire. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail personnel. Donc, n'attendez rien actuellement de beaucoup de science. Ce n'est pas elle qui va vous apporter les choses. Vous avez ce trésor en vous-même. Et il va falloir le réveiller. Le réveiller, c'est-à-dire le redonner ce qu'elle a été un jour à l'origine de la naissance de cette vie. Alors, c'est les biologistes, c'est les étudiants, on va dire, c'est bien gentil. Votre biologie que vous étudiez, c'est un peu comme un film qui est arrêt sur l'image. En fait, vous ne connaissez rien au développement dynamique de cette vie. Vous ne faites que de l'analyse. Alors, bien sûr, ça, ils en connaissent plus que moi sur toutes ces réactions métaboliques, etc., qui font que son corps fonctionne. Mais comment vivre? Et là, je vous fais une petite confiance. À l'heure actuelle, là, vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil. Vous avez déjeuné il y a quelques heures. Eh bien, je me disais qu'à la ministre, attendez, votre corps, qui comporte à peu près une moyenne très grossière, 60 000 milliards de cellules tout de même, tout ça fonctionne parfaitement bien. Tout ça se coordonne, tout ça effectivement s'entraide, se solidarise. C'est extraordinaire de savoir que ce corps fonctionne toujours avec une loi que l'homme devrait bien comprendre, c'est la loi du moindre effort. Ah, alors je dis exactement le contraire. Eh bien, il me disait, notre corps, à l'heure actuelle, il y a un bon nouveau pas. Eh bien, nous faisons à peu près 6000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse comprendre quelque chose là-dedans? C'est énorme, c'est colossal. Et tout ça se fait avec une intelligence extrême. Toutes ces molécules entrées, ces atomes se rencontrent par des jeux d'échange électronique, et là je vais vous parler, eh bien, chaque clé. Chaque cellule trouve effectivement sa clé et sa cellule à une rapidité qui n'a rien à voir à ce qu'on nous a raconté. Et c'est bien là qu'il faut comprendre des choses. Il leur a expliqué à ces étudiants biologistes que lorsque les molécules entraient par des réactions métaboliques se rencontraient, ce n'était pas du tout par des affinités physiques, absolument pas. c'était par une signalisation moléculaire qui fonctionne à la vitesse de la lumière. Parce que votre repas, s'il fallait attendre que la molécule se rencontre avec sa molécule seule, il faudrait 3 ans pour digérer votre repas. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas enseignées, alors que c'est une évidence même. Donc, nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons, sachez-le, sur tous les plans. Et là, je vais essayer de vous l'expliquer à travers vous. Donc, ces études-là, j'ai commencé, et bien sûr, j'ai étudié la mémoire de l'eau, on en entend. Vous l'avez vu ici à travers Masuro-Emoto, à travers toute cette sensibilité. Bon, Benveniste a été un des premiers pionniers qui a permis de faire découvrir que toutes nos molécules fonctionnaient à travers une signalisation et que ce qui était intéressant dans l'atome ou la molécule, c'est pas la molécule ou l'atome lui-même, c'est son information. Une fois qu'on a l'information, on n'a plus besoin de la matière. Vous vous rendez compte ? Voilà où on en est. Nous sommes que les systèmes d'énergie et d'information. Alors, je ne vais pas ici, je vais faire un petit aperçu, si vous voulez, d'un constat que l'on fait actuellement et qui évolue très vite, et tout se passe actuellement un peu dans les coulisses, je dirais, des laboratoires, et dans les confidences entre scientifiques, mais ce que vous êtes là, composé de tous ces atomes, de toutes ces cellules, eh bien, sachez que c'est vous qui en êtes le maître. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que tout ça se fait. Nous avons été conçus avec une intelligence extrême pour qu'on puisse fonctionner à condition de respecter les lois de l'univers. Alors, bien sûr, il va falloir parler de ces lois de l'univers. On nous a cachés, et alors nous sommes entrés dans des dogmes absolument impossibles qui ne nous permettent pas de comprendre et de s'ouvrir à cet univers. Eh bien, j'ai été, il y a quelques années, visiter le CERN de Genève, le Centre d'études et de recherche nucléaire. Et dans ce centre-là, vous avez à peu près 3000 physiciens qui cherchent à savoir ce que c'est que la matière, c'est-à-dire de quoi vous êtes fait. Et bien, ma stupéfaction a été grande. Elle a été grande parce que ces gens-là, ils recherchent, bien sûr. On a construit un immense collisionneur qui fait 27 km à 100 mètres sous terre entre la France et la Suisse, à Genève, et qui est la plus grande machine que l'humanité n'ait jamais construite dans le monde. Ça a coûté 6 milliards d'euros, au plus bas, pour le plus mal. Et vous avez 3000 physiciens qui cherchent ce que c'est que la matière. Donc, vous vous rappelez, on fait tourner ça à une vitesse de la lumière, avec des particules qui se rapprochent et qui se rencontrent, ça fait des subparticules, des sous-particules, puis tout devient évanescent, disparaît dans une espèce de quantum, on ne sait pas où, etc. Tout devient probable, rien n'est certain. Alors, évidemment, ça fait drôle. Comment se fait-il que nous sommes dans cette réalité tangible, effectivement, qui nous paraît absolument réelle, alors qu'en définitive, derrière tout ça, eh bien, c'est autre chose. Quand on rentre effectivement dans cet univers qu'on appelait quantique, je ne veux plus l'appeler quantique, ça n'est plus grand-chose de nos jours, eh bien, il faut savoir que, en définitive, tout devient imperceptible. Tout devient incertain, ce sont plus que des probabilités, etc. Et en fait, quelque part, dans cet hyperespace, qui est absolument invisible à nos yeux, et bien c'est la salle des machines lui-même qui nous permet, nous, de fonctionner dans notre matière physique. Comment se fait-il qu'on ne relie pas tout ça, et qu'on ne fait pas fonctionner tout ça, et que nous avons mis une barrière infranchissable entre notre réalité matérielle et ce monde totalement invisible. Comme le disait Saint-Ex, hein, l'essentiel est invisible à nos yeux. Donc il faut reprendre ça. Et je dirais, il ne faut pas en faire une religion, bien entendu, on va pas tomber là-dedans, mais il faut se réapproprier. toute cette connaissance, car nous sommes trop assis sur notre savoir. Et si vous voulez, tout change très vite, très très vite. Nous sommes la plupart du temps sur des pensées passées, non adaptées au présent. Vous voyez ce qui se passe un peu partout ? C'est bien ça. Donc, il faut dépasser complètement ce savoir. Il faut être toujours sur la crête du mystère, c'est-à-dire aller vers la connaissance. C'est ça le monde. C'est un monde dynamique. Là, nous sommes partis d'une lumière originale et nous explorons les ténèbres, si je peux dire. Et nous devons les éclairer. Et c'est ça notre présent. Donc vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir petit à petit intégrer dans notre biologie. Et croyez-moi, vos cellules, elles attendent ce que vous leur dites. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est très important. Et les découvertes que l'on fait actuellement sont encore plus stupéfiantes que vous l'imaginez, puisqu'on a parlé. Tous ces scientifiques de recherche en matière nous disent, en fait, la matière n'existe pas. C'est une illusion en 3D, faite par nos sens. Et ces sens-là nous montrent un visage du monde qui est extrêmement réductionniste. C'est comme si on regardait quelque chose à travers le mur scolaire. Donc vous voyez, nous sommes mal outillés pour comprendre l'univers. Ils vont s'enfermer là-dedans avec un bonheur certain, et on a oublié qui on est. Alors on va remettre les pendules à l'heure, et l'eau pour ça est magistrale. Alors on remet toujours dans la ligne de l'univers, dans la compréhension de cet univers. Alors, vous allez voir que là, je suis qu'au début. Et quand je vous dis que la matière n'existe pas, eh bien ça, c'est mis en aparté actuellement par ces physiciens qui recherchent la matière. Et il dit, mais il est impossible d'annoncer officiellement que la matière n'existe pas. Les premiers physiciens, ils seraient virés du jour au lendemain, aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc vous voyez un peu, le problème actuellement, c'est ahurissant. Et comme ils disent, la matière, en fait, c'est actuellement, c'est l'information qu'on en a, c'est tout. Vous vous rendez compte ? Alors, tout ça, évidemment, ça pose des problèmes. Savoir qui on est et on veut. Qu'est-ce que c'est cette matière là-dedans ? Puisqu'on s'aperçoit de plus en plus, ce qui est important, c'est l'information à générer. Et par conséquent, comme l'avait montré notre ami Benveniste, par toutes ses expériences, c'est pour ça qu'il a été rejeté par la Sainte Église scientifique que j'appelle, hein, qui n'a pas accepté dans ses hommes que l'on puisse éliminer la matière. Alors que cette matière est analysée, comme on dit. Elle est découpée, décortiquée. Regardez ce qu'on fait actuellement. On fait tout. Et l'analyse, ah, c'est un mot très intéressant. C'est un mot qui vient des Grecs. Ça veut dire Anna, le plus haut, la haute céleste. Lise, ça veut dire cacher la haute céleste. Cacher le plus haut. Et voilà ce qui se passe. C'est pas étonnant, nous avons cassé notre connaissance en petits morceaux. Tout est dispersé. Hein? Et je peux dire qu'on a fait une espèce de babélisation de la science, qui ne comprend plus rien à rien. Demandez à un physicien ce que c'est un atome, il essaiera de vous donner une solution, une explication. Un astrophysicien qui n'y connaît rien du tout, en ce qui concerne la physique quantique, tout s'arrête dans une physique classique. Et cette physique quantique n'a jamais pu entrer dans la physique classique de tous les jours. Si bien qu'on a tendance à l'abandonner, parce qu'en définitive, on ne trouve aucune possibilité pratique. Ces gens qui recherchent la matière, là-bas, j'en termine, parce qu'on va parler de nous après, eh bien, ils nous ont dit quelque chose qui, là, ils sont stupéfiants. Et c'est là que vous allez voir que, encore une fois de plus, il faut tout de même savoir que nous avons raté le train. À savoir que ces physiciens ont fait des calculs faramineux qui ont duré parfois un an, deux ans, pour rechercher une particule probable qu'ils avaient soi-disant repérée. Et au bout de 2 ans, ils mettent en route leur machine, collisionneur, etc. On envoie les protons, les photons, les uns contre les autres. On ne rentre pas dans tous les détails. Et au surprise, cette particule apparaît. Vous vous rendez compte? Ils sont fiers. Ils sont ensuite couronnés par un prix Nobel, etc. Ça, c'est l'histoire des bosons X qu'on a découvert l'année dernière. Mais en fait, on n'a rien découvert. Maintenant, on le sait. Et alors, voilà la question qui se pose. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, les scientifiques me disent, je ne vais pas dire leur nom, ils me disent, est-ce que c'est pas nous qui faisons apparaître cette particule? Alors bon, on ne dit pas qu'on va faire entrer là-bas des phénomènes de pensée conscience, chose que toute la science classique orthodoxe a refusé jusqu'ici. Et moi, c'est exactement ça, puisqu'ils l'ont prouvé. Mais ça, vous n'aurez jamais aucune communication officielle. Absolument pas. Il est interdit de dire des choses comme ça. Savoir que l'homme a un pouvoir sur la matière dont il est fait. Alors, c'est pas sérieux, ça. Nous sommes dans une espèce de destin qui est entièrement écrit par un déterminisme qui a été créé par la science actuelle, tout à fait rationaliste, et on est pris là-dedans, on est, on meurt, terminé. Voilà ce que nous sommes. Donc, évidemment, c'est pas très enthousiasmant. Et c'est bien pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de désespérance, beaucoup de gens, etc., qui n'en sortent pas. Alors que, rendez-vous compte ce qu'ils disent. Alors là, vous allez voir, c'est fabuleux. Ils disent en définitive, bon, nous sommes que l'énergie d'information, et on a pu, à travers des expériences, notamment avec ce qu'on appelle des photons, donc les photons, ce sont des grains de lumière qui sont à la fois particules et ondes. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on observe un photon ou un électron, prenons l'électron, parce qu'ils l'ont fait avec l'électron, eh bien l'électron dans lequel, je dirais, dans votre corps, vous avez des milliards, et c'est grâce à ça que votre corps fonctionne, vous allez voir qu'on va revenir dans l'eau, cette eau extraordinaire, et vous allez voir que là, bien sûr, on a dit qu'ils ne sont pas encore au courant. Eh bien, il faut savoir que cet électron, en fait, c'est une particule d'autre espace. Il n'appartient pas vraiment à notre univers. Quand il apparaît dans notre espace-temps, cet électron, je sais si on en parle, tout est électronique. Mais on n'en a jamais vu. Quand on le voit, c'est une trace ou une position, et on ne sait pas où il est, on ne sait pas d'où il vient. On dit que ça tourne autour des atomes, et les électrons tournent autour des atomes. Ça ne tourne pas du tout autour des atomes. Ce sont des fréquences et des vibrations, des ondes, qui provoquent effectivement des matérialisations ou des réactions métaboliques. Eh bien, quand on regarde cet électron à travers des spectrographes et des microscopes électroniques, avec un observateur qui est derrière, l'électron apparaît, pas de problème. Mais quand on substitue l'observateur par une caméra vidéo, l'électron n'apparaît pas. C'est vous qui le faites apparaître. On revient à ce qu'il pensait. Effectivement, les particules qui cherchent et qui trouvent sont créées par leur propre imagination. Ah. Alors ça, vous ne l'avez jamais écrit dans aucun compromis scientifique. Pour l'instant. Mais ça va déborder. Donc, vous voyez que l'eau est juste à sa frontière entre le monde physique et le métaphysique. Et on n'en fait rien. Non seulement on n'en fait rien, mais les ondes que nous utilisons, que nous buvons, nous mettent sur des terrains de dégénérescence et accélèrent notre vieillissement. Alors, j'ai rien d'extraordinaire. Je peux vous dire, j'ai suivi ces lois de lumière, et en définitive, elles m'ont rendu leur gratitude. Et avec l'eau, vous allez pouvoir faire pareil. C'est une reconquête. Vous voyez, la vieillesse, c'est pas une déchéance, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Bon, maintenant je vais vers mes 83 ans, etc. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Combien je sens que l'univers fonctionne, palpite, résonne en moi, et que je suis en accord avec beaucoup de choses. Et là, peut-être ce soir, vous aurez encore des révélations sur le temps et savoir qu'effectivement, nous sommes non seulement des êtres de chair, mais surtout des êtres conscience, et l'eau est là, une traceuse de conscience. Nous y sommes. Et en fait, ce que disent les scientifiques maintenant, nous sommes, écoutez bien ça, nous sommes de l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. Voilà ce que vous êtes. Et c'est votre information personnelle, ça. Je vais expliquer un peu mieux les choses maintenant au niveau du corps biologique et comment fonctionnent vos cellules. Et tout ça, ce sont des choses qu'on découvre. Alors vous voyez ce que vous êtes. Quelqu'un vous a enseigné des choses comme ça? Personne. Personne. Et tout ça, c'était connu parfois par les anciens, par des philosophies que l'on a perdues, des civilisations qui sont tombées, qui ont disparu. Vous connaissez ces choses-là. Et j'ai fait des voyages en Égypte, tout ça s'est marqué. C'est très curieux. Dans le livre des morts, qui n'est pas le livre des morts, d'ailleurs, ça c'est une fausse traduction, c'est le livre d'après, après la mort. Il n'a rien à voir. Alors vous voyez, il faut réinstaller en vous ce sens-là des choses. À ce moment-là, il y a une chose qui disparaît, c'est la terreur de la mort. Parce qu'elle est toujours là, prégnante pour vous. Et c'est ça qui accélère notre dégénérescence, qui accélère. Et vieillir, c'est pas avoir un certain nombre d'années, c'est pas ça du tout. Vieillir, c'est avoir déserté son idéal. Et ne plus avoir de futur. Ah. Donc, il faut sans arrêt regarder vers ce futur. Vous verrez ce soir, notre ami du dimanche qui nous parlera de tout ça, ça rejoint exactement le fonctionnement de notre corps. Et comment fonctionnent-ils ces cellules? Ces 6 000 milliards de cellules, vous vous rendez compte ce que c'est 60 000 milliards de cellules? Tout ça est organisé, tout ça est interrelié, tout ça fonctionne sur des fréquences précises, tout ça fonctionne de telle façon que chaque cellule apporte, je dirais, en solidarité avec ces cellules environnantes, est en vigilance permanente pour s'entraider, pour échanger, en fait, pour aller le mieux possible. Et ces pauvres cellules, toute la journée, elles se battent. Sur toutes les mauvaises informations qu'on lui envoie, notre mauvaise hygiène de vie, nos pensées qui sont souvent négatives, nos peurs, tous nos problèmes psycho-émotionnels, toutes nos histoires depuis des générations qui sont là sans arrêt à bloquer cet élan. Eh bien, comment fonctionne le cellule? Bien sûr, c'est résumé ce que je vous raconte, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais. Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'électron. Eh bien, sachez que votre biologie ne fonctionne qu'avec deux particules. Une fois que vous les comprenez, que vous les maîtrisez, vous n'avez plus aucun problème. Quelles sont ces deux particules? Je vais en parler, la première c'est l'électron. C'est une particule, mais c'est aussi une onde. Il est caillou dans un monde, il est onde dans un autre. Il fonctionne dans deux temps différents. Et un électron, c'est plein de photons. Qu'est-ce que c'est qu'un photon? C'est encore une petite bête, ça. Hein, qui sont des grains de lumière, mais qui sont aussi des fréquences. La lumière. Eh bien, il faut savoir que nos cellules fonctionnent strictement avec ça. Et quand vous avez maîtrisé à ce niveau-là, tous ces paramètres-là, donc qui proviennent, je dirais, de l'hyperespace, qui proviennent l'espace, qui provient d'un autre univers, qui est l'univers originel, eh bien, quand vous captez ceci, et que vous maîtrisez ces paramètres, eh bien, tout redescend en cascade harmonieuse jusqu'au niveau le plus basique, c'est-à-dire au niveau de nos échanges métaboliques. Ça ne sert à rien d'aller trifouiller dans toutes ces échanges métaboliques, comment voulez-vous vous y reconnaître, même un ordinateur ne pourrait pas le faire. Donc, on est encore loin du compte, tant qu'on ne sortira pas de cette matière pour aller chercher la solution là où se trouve l'origine des choses, eh bien, on se portera toujours mal. Et quels que soient les problèmes de la médecine, eh bien, on peut dire qu'actuellement, c'est pas terrible. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de solutions actuellement à ce niveau-là. Alors, comment fonctionnent nos cellules entre elles? Eh bien, on s'est aperçu que toutes ces cellules communiquent, en fait, sans arrêt. Et ça a été découvert il y a une quinzaine d'années par un bon physicien allemand qui s'appelait Fritz Albert Popp, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « La biologie de la lumière » et il explique comment les cellules communiquent entre elles par des flashs de lumière cohérents, sorte de laser, sur la gamme d'ondes ultraviolets. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'elles s'informent sans arrêt. Eh bien, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui fait ce travail? C'est l'eau. Qu'est-ce qui permet la communication entre ces cellules? C'est l'eau. L'eau est l'autoroute de toutes les informations, à la fois, je dirais, physico-chimiques, électroniques, virtuelles, immatérielles, et je dirais aussi de la pensée. On en reviendra à la fin, à la pensée. Vous allez voir que quand vous avez maîtrisé ça, tout fonctionne d'une façon incroyable. Et vous apercevez qu'il n'y a pas de monde. Ah, ça c'est pas grave. Donc je ne sais pas. Et il suffit, il n'est pas utile de demander à l'univers. Il est utile, et l'univers nous sera gratifiant, c'est de prendre ce qu'il a. Ne nous sera, on ne sait pas. Tout est à notre disposition. Comment se fait-il? On ne l'a jamais appris. Bah, vous voyez bien. L'ignorance, ça sert à gouverner. Vous le savez très bien. Bon, donc tout ça, c'est. Alors, nos cellules, comme je vous l'ai dit, et l'eau va être extrêmement importante. L'eau doit se structurer au moment de la fibre. L'eau a des particularités, c'est qu'elle est un peu comme le cristal. L'eau est cristalline. Donc, entre nos cellules, pour pouvoir effectivement faire passer ce flux photonique, eh bien, l'eau va se conformer un peu comme une fibre optique. Vous voyez? C'est un peu comme ça que l'eau va se former, et il faut que l'eau ait la possibilité de le faire. Et il faut donc lui fournir une eau qui soit qui est ses caractéristiques et qui est ses paramètres qui nous permettent de faire fonctionner, je dirais, tout le corps au niveau non seulement physico-chimique, puisque ça c'est la résultante, c'est la finale, si je veux dire, mais surtout en amont, puisque c'est là où, dans notre corps, nous avons une carte électronique. Alors ça ne sert à rien d'aller chercher la table pour les métaboliques. Alors que c'est au niveau que le corps fonctionne parce qu'on n'a pas allumé dans notre corps. C'est ce qui se passe actuellement. Donc ça fait la fortune de, j'ose pas dire tout de même, de l'écrasement. Pas le mieux. Bien, donc vous voyez, on peut se passer de tout ça. Alors nos cellules entre elles, vous voyez, l'eau que nous allons voir, nous en parlons de cette qualité de l'eau. Bien entendu, on va terminer là-dessus. Mais je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, parce qu'il faudrait que je reste plusieurs jours aussi pour parler de tout ça. Bon, j'ai écrit ça dans mes livres, bien sûr. Mais si vous voulez, les choses sont tellement innovantes actuellement. Alors, ces flashs de lumière, bien sûr, paraissent, c'est très faible. Voilà. Pour pouvoir les détecter, des appareils qui viennent assez fins, parce que le Fritz Haber-Pop ne les a pas découverts comme ça, bien entendu. Mais c'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire. Chaque cellule, comme vous connaissez, on ne va pas rentrer dans l'explication de la cellule par elle-même. Bon, vous savez que vous avez le noyau de la cellule, le centre, il y a notre ADN, dans lequel se trouve une séquence génétique. Et alors là-dessus, là, je vais vous dire entre guillemets, mais on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'en sortira pas. Qu'actuellement, on s'aperçoit qu'on a tout faux au niveau des séquences génétiques. Alors, je fais un petit aparté là, parce que on est tellement dans les nouvelles découvertes actuellement. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça et redonner une espèce de synthèse et tout ça. C'est ça qui est important. Eh bien, vous savez que pratiquement, on a découvert l'ADN, ou du moins ces séquences génétiques de notre génome. On pensait qu'on avait, à l'époque, 120 000, je dirais, ADN, enfin, séquences, dans notre génome. Et quand ces messieurs, dans les années 60, Crick et Watson, ça fait ces deux Américains, qui ont séquencé notre ADN, et ils ont trouvé, en définitive, qu'on avait, pour dire, non pas 120 000, parce qu'on se croyait vraiment supérieur à tout ce qui était vivant sur la planète, alors qu'il y a un grand nombre, on a 14 000 ou 15 000, eh bien, il faut être modeste, il n'en avait trouvé que 20 000 pour l'homme. Pour finir, on n'a pas plus de séquences, je dirais de génome, de gènes, qu'un grain de riz ou une mouche drosophile. Alors, ça nous rend un peu plus humble. Mais on a quelque chose en plus, et c'est ça qui change tout. On a quelque chose en plus, c'est que, tout simplement, vous savez que, bon, sans rentrer dans les détails, notre ADN va fabriquer à travers, je dirais, des acides aminés, etc., des protéines, comme on dit. Eh bien, il faut savoir que le vivant, et les végétaux et les animaux, secrètent, dans la même séquence, toujours la même protéine. Par conséquent, on a l'impression, c'est même une certitude, que l'animal, que la plante, on leur a attribué, je dirais, une spécificité qui est souveraine et absolue et qui ne change pas, ou très peu au cours des âges géologiques. Mais non, c'est ça, on s'est aperçu, c'est que n'ayant pas plus de gènes et de bouche productive, ou un gamme, eh bien, on s'aperçoit que nous, on ne sait jamais quelle protéine chaque gène va fabriquer. On en a de toutes sortes. Et tout ça, c'est dû, effectivement, et ça s'aperçoit de plus en plus, en fonction, je dirais, de l'environnement extérieur. Ça veut dire que tout le contexte psycho-émotionnel dans lequel nous vivons, notamment, peut modifier instantanément n'importe quel gène. Nous avons pouvoir sur nos gènes. Chose qu'on ne nous a jamais dit, bien entendu, puisqu'on vient de l'écouter. Nous avons cette possibilité, et ça a été observé dernièrement aux États-Unis, eh bien, que ces gènes, eh bien, pratiquement, vont être modifiés par l'environnement dans lequel nous vivons, par le milieu familial, professionnel, notre éducation, notre religion, nos croyances. Vous avez un livre remarquable, je vais vous dire en passant, qui a été écrit par un biologiste américain qui s'appelle Bruce Lipton, La biologie des croyances. En fait, c'est ça. En fait, on se croit effectivement victime d'une hérédité, alors qu'on s'aperçoit qu'on n'en a pas. Et que cette hérédité, elle est transmise de génération en génération, non pas à travers les gènes de mère, mais à travers des résonances, des habitudes et des formatages qui se font dès la naissance. Et si vous modifiez tout ça, vous modifiez vos gènes aussi. C'est-à-dire que vous les rendez opérationnels pour ce qu'ils vont faire, et non plus du tout des gènes qui vont s'exprimer d'une façon négative. Donc voilà encore le pouvoir que vous avez. Je vous laisse le soin de réfléchir à tout ça, mais sachez que on a cette possibilité. Et alors que nos cellules, fonctionnant de cette façon-là, vont communiquer entre elles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ce réseau lumineux fonctionne bien, eh bien toutes les réactions métaboliques, tout se fait de façon harmonieuse, et votre corps fonctionne sans aucune maladie. Et on vous raconte toujours qu'il y a une maladie héréditaire, c'est pour ça que ça n'existe pas. Et ça, c'est l'exemple encore très récent, où on a démontré aux États-Unis, notamment, que dans les familles qui se disent obèses, ben oui, parce que ton père était obèse, oui, parce que ton père et ton grand-père aussi, et puis ton, toi aussi, tu seras obèse, ton père, c'est génétique. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que ces gens-là, ils avaient acheté un chien qui est devenu obèse lui-même. Donc il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et ils sont aperçus que c'était une espèce de résonance, en fait. Une espèce de formatage qui était dit, et que nous sommes enregistrés, tout simplement. C'est incroyable. Donc vous voyez, vous avez le moyen de lutter contre tout ça et de effacer les choses, hein, et de les remplacer par quelque chose de positif. Donc, nos cellules, vous voyez, ont une vie à peu près, elles se divisent, bien sûr, une cinquantaine de fois, c'est-à-dire, on appelle ça la limite de Rayleigh. Elles se divisent une cinquantaine de fois par apoptose, elles meurent par apoptose, et quand elles meurent, ça c'est très curieux. Quand elle meurt en émettant un flash de lumière, comme si elle relarguait complètement toute son information. Et là, c'est là qu'on a, je dirais, une sorte de compréhension de notre fin de vie, si je peux dire. Le jour où ça vous arrivait, bon, hein, n'ayez pas trop peur de ça, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez voir. Bon, pour l'instant, bien sûr, c'est difficile à accepter. Mais le jour où notre corps, nous devons le laisser, eh bien, il se passe un phénomène incroyable. C'est nos 60 000 milliards de cellules qui relarguent leur information en même temps par un flash de lumière. Alors, on dit, ça, j'ai pas la certitude, je vous laisse un peu comme une hypothèse, on avait mesuré un corps avant de mourir et juste après, il y avait une différence de poids qui était due à cette information qui s'en allait, je dirais, dans un autre monde. Ou dans un autre temps, peut-être. Eh bien, on retrouve ça dans les traditions religieuses et tout ça. Lorsque j'ai fait le voyage en Égypte, je n'ai pas fait du tourisme, on a été vraiment voir avec des Égyptiens, des vrais et non pas des gens qui, des guides touristiques, qui vous racontent n'importe quoi, eh bien, dans le livre des morts, il est dit, le livre après la mort, exactement, il est dit que nous en allons dans notre habit de lumière. Donc, il se passe bien quelque chose, et comme je vous le dis, on revient toujours à cette définition que nous sommes strictement de information et énergie. À autre chose que ça, et que ça parcourt le monde, dans l'infini du monde, et dans l'éternité du temps. Donc, il va falloir faire avec tout ça. Autant bien le faire dans notre incarnation, comme on dit, parce qu'il faut dire incarnation, bien que le terme n'existe pas. Mais enfin, tout de même, hein, quand on sent un peu derrière, on le sent. Hein. Bon, quand on se passe une jambe, on le sent. Il se passe des choses. Ben, tout ça, ce sont des illusions, en pratique. Bon, tout est fait pour qu'effectivement on puisse ressentir tout ça, mais en fait que la matière c'est une image en 3D au final. Alors vous voyez, on est très loin de toutes les choses, et c'est pour ça que l'eau quelque part a quelque chose d'immatériel aussi. Et quand vous avez compris ça, et quand vous la buvez, ça change complètement les choses. Donc, on dit aussi même dans les textes sacrés, même chrétien, que l'homme s'en va dans son corps glorieux, illuminé. Donc ça vient dans toutes ces religions. C'est une espèce de réminiscence, quelque part, de quelque chose qui était connu des anciens depuis longtemps. Donc le passage là, il faut essayer, bien sûr, d'en profiter le plus possible, et en harmonie surtout avec ce qu'il nous a donné, je ne sais pas si un créateur, peu importe, il y a quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. On s'aperçoit que plus On est dans cette espèce de bienveillance vis-à-vis du monde. Bienveillance, ça ne veut pas dire être une espèce de petite minou, mais devant les choses, ça fait tout. Hein. C'est-à-dire être en dehors de toute critique et jugement, et ne jamais être dans la haine, la vengeance et la colère. Quand vous avez maîtrisé ça, croyez-moi que votre petite séquence génétique se porte beaucoup mieux. Votre corps vous écoute toute la journée. Alors, les Américains sont toujours très forts pour faire des statistiques. Ils disent, oui, vous voyez, dans une journée, on manipule à peu près entre 40 000 et 60 000 pensées. C'est n'importe quoi. La foule, hein. Bon, donc, il y a très peu de pensées qui sont performantes et qui permettent effectivement au corps de respirer un peu. Alors, là, je ne sais pas combien de temps j'ai pour te parler. Tu peux me dire.
Ça va,
j'ai un peu. Moi, il me reste combien de temps?
Une heure
pour
parler
et
me répondre.
Ah non, une heure, y compris les réponses.
C'est déjà.
Ah, bah non, pas du tout. Quand on m'a lâché, moi, c'est fini. Mais on va faire avec, puisque bien sûr on est toujours comprimé en temps.
Mais
non, mais il y a un regard, tu vas attendre un petit peu. D'accord, ok, je vais. Bien. Donc c'est bien que j'arrive au résultat. Hein. Et ça nous a pas beaucoup. Je vais pouvoir. Ah, le miracle. Ah, je vous en prie, donnez-moi la recette. La recette, le miracle de l'eau, il est en vous. Et je me dis tout cas. Alors n'attendez pas le miracle de quelqu'un, de tout le monde, absolument jamais. Vous êtes vous-même l'univers, vous pourrez démontrer ça, on découvre ça. Hein. Comme la matière n'existe pas, ce n'est que du vide, on ne s'en aperçoit. Hein. Eh bien, ce vide, effectivement, il est aussi un infiniment petit dans l'infiniment. Alors de toute façon, vous êtes coincé là, vous ne pouvez plus tellement discuter pour savoir ce qu'il faut faire, puisque de toute façon, vous existez déjà ailleurs. Vous êtes caillou dans ce monde et vous êtes ombre dans un autre. C'est ça, je comprends. On est privilégié. Bon, bref. Alors vous voyez, tout ça, il faut savoir que l'eau va être encore là, toujours vigilante, pour porter ce que vous êtes. Alors, il ne s'agit pas de dire, bon, quelle eau faut-il boire, comment faut-il la boire, etc. Alors si, je vais rentrer un peu dans le concret, parce que vous n'en pouvez plus. Parce que vous, ce mec-là, il vous raconte tout. C'est pratiquement de la science-fiction. Donc, il y a peut-être même des choses concrètes derrière. Mais oui, on y arrive. Vous allez voir. Mais, vous savez, comme toujours, dans cet univers, et nous, particulièrement les hommes, pour un endroit où il faut avoir en plus essayé de travers. Bon, c'est notre ami connu qui disait ça. Mais c'est vrai. Donc on en est là encore. Bon, la vie n'est pas une suite d'épreuves, c'est une suite d'expériences. C'est tout. On a des échecs, une échec est porteur de succès, il faut savoir aussi, etc. Eh bien, sachez qu'actuellement, cette eau-là va avoir des caractéristiques pour pouvoir faire son travail dans votre corps. Alors, sur deux plans. Le plan physique, bien entendu, puisque c'est ça que vous attendez surtout. Il y a des gens qui disent, allez, donne-moi ton nom miraculeux et je vais guérir. Bon, je dis, attends, je vais guérir. C'est pas une guérisseur, c'est pas l'eau. L'eau, elle nous fait nous transmettre ce que tu veux. L'eau est une résonance, l'eau est des capacités, des fréquences qui effectivement amplifient les choses. Mais ce n'est pas l'eau par elle-même, c'est au fond de vous-même. Je vous fais une petite confiance. Bon, encore, mais ça, je monte encore sur le temps. Dernièrement, et ça a été lu sur YouTube ou je ne sais plus quoi, mais en fait, j'ai eu une confirmation. Il y avait une clinique à Pékin. Qui soignait, qui guérissait des cancers. Et vous savez comment? Par des fréquences. Et là, on le voit en direct. C'est une vidéo remarquable, d'ailleurs, que j'ai montré je pense, Nassim Ramel ou Washington, je ne sais pas qui, voit très bien le scénario suivant. C'est pour vous montrer que c'est vous, le gars. Cette femme avait, c'est une femme qui avait un cancer de la vessie. Donc, on a pu voir celui sur la radio, la vessie en question, et on voyait qu'il y avait une excroissance qui était un cancer grave. Cette femme-là, si elle ne soignait pas, était terminée. Eh bien, vous allez voir comment elle a été guérie. Elle est venue dans cette clinique, et effectivement, il y avait l'échographie, la photo de l'échographie avec ce cancer, et l'autre côté, on l'avait installé, bien sûr, et on a mis un appareil d'échographie qui, auquel on voyait, bien sûr, dans le présent, si je veux dire, cette protubérance dans la vessie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est curieux parce que il y a des aides-soignants qui sont arrivés, le chirurgien était là, et ils ont entrepris, tout simplement, avec des fréquences et des mantras, une espèce de chant. Et il faut voir que cette femme était dans la certitude de guérir. Elle était dans cette espèce de foi profonde où elle disait, je veux m'en sortir, je sais que je peux le faire, et mon corps va répondre à ça. Et elle a reçu des fréquences qui ont été dites par des mantras, tout simplement, de ces ex-soignants qui se sont mis à entonner ces mantras et les fréquences. Et vous voyez, en direct, sur l'échographie, disparaître la tumeur en 1 minute 40. Et elle l'a fait parce qu'elle était sûre, elle, d'être sa propre guérisseuse aussi. Pas oublier ça. Ça, c'est très important. De reprendre pouvoir sur nous-mêmes, pouvoir sur notre génome, pouvoir notre structure physique, pouvoir sur nos cellules. Elle demande de ça. Elle vous écoute tout à l'heure. Eh bien, je vous dis en passant que la clinique a été fermée. Si maintenant il y a des cancers comme ça, qu'est-ce que va faire du pharma? Bien. Donc, elle était avec un cette clinique. Alors, plus personne ne peut. C'est une légende qui dit, oui, il a appris, on a su, mais bon, pas de vrai. Alors, elle dit, monsieur, le grand agent. Bon, ça veut dire tout de même que cette puissance, on l'a. On l'a, il faut la développer. Alors, donc, cette eau-là, moi, je vous dis un peu comment on l'a fait, si je peux dire. D'abord, c'est pour l'eau et les caractéristiques de pureté. Ça, c'est indispensable. La pureté de l'eau, c'est une eau qui n'est pas liée. Elle est libre. Les molécules d'eau ne sont pas liées entre elles par des minéraux, des informations mauvaises, etc. Elle est libre. Et en plus, elle est dynamisée. Donc, on parlera de la dynamisation après, mais elle est avant tout libre. Vous voyez ? Il faut bien comprendre que l'eau, comme vous l'avez vu, si vous voulez, il est nécessaire qu'elle puisse être offerte au corps. Et à toutes les informations qui vont arriver, puisqu'elle va se lier progressivement à travers les informations qu'elle va recevoir. Si elle est déclarée au départ, elle ne sert à rien. Elle va être relevée par les voies rénales, point final, et il ne se passera rien. Donc, c'est à ce moment-là que commence le problème. Si, par exemple, cette eau n'est pas pure, et Dieu sait si on en voit qu'il n'est pas pur. Bon, je ne vais pas parler des eaux minérales en bouteille, mais beaucoup de gens en boivent, et on appelle, et les médecins disent toujours, n'inquiétez pas, c'est bon, il y a des minéraux dedans. Bon, alors ça, c'est la cata. Les pauvres médecins, moi, j'ai fait des séminaires sur l'eau, et au début, il n'y avait personne du corps médical, petit à petit, il y en a un ou deux qui sont venus, et qui ont été absolument abasourdis parce que leur racontaient tout simplement, que cette eau, en fait, faisait tout le boulot, et que ce n'était pas eux qui le faisaient, mais au contraire, eux, ils empoisonnaient leur patient. Empoisonnaient les médicaments, les effets secondaires, les maladies locales, etc., tout ça. Eh bien, là, il y a une chose importante, l'eau qui est chargée, si je puis dire, par des minéraux, notamment les eaux minérales en terre, vous le savez tous, vous en achetez, on vous dit buvez et éliminez. Bon. Alors, sachez que lorsque vous buvez des minéraux qui sont dans vos têtes, lorsque c'est une eau qui est morte, les minéraux sont morts, ce sont des cailloux, et il faut savoir qu'il ne faut pas sauter la barrière des espèces, nous sommes des animaux, des mammifères, et les mammifères ne peuvent pas assimiler des cailloux. Impossible. Ce sont les végétaux qui le font. Donc c'est à travers les végétaux qu'on se minéralise, et non pas à travers les minéraux bruts. Nous sommes des êtres hétérotrophes. Donc sur ce plan-là, ça c'est très important de respecter ça. Et même si vous achetez des eaux dans les supermarchés, elles ne doivent pas dépasser une certaine minéralité, disons au maximum 100 mg, au maximum. Mais au-delà, ça devient dangereux, puisque à ce moment-là, ces minéraux, il faut savoir, nous ne pouvons pas les assimiler. Soit nous les rejetons par les voies rénales, la plupart du temps comme ça que ça se passe, et si on en a des trop, eh bien, il se passe la chose suivante, c'est très simple, vous avez des colmatages qui commencent à se former, l'eau est complètement gelée, si je peux dire, vous voyez, elle n'a plus du tout sa dynamique, tout se fige, et à ce moment-là, petit à petit, vous perdez des réactions métaboliques. Mais ça, c'est pas encore le plus grave, il y a pire que ça. Donc, ces minéraux, il faut absolument les éliminer. Il ne faut pas confondre ces eaux minérales à la source et ces eaux minérales en tout. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un peu. Il y a autant de différence entre un lion empaillé et le même dans la jungle. À peu près ça. Alors vous voyez. Donc, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc, au contraire, c'est mortel. Ça vous met sur des terrains de dégénérescence puisque l'eau ne peut plus faire son boulot à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Les courants ne se font plus. Les effets photoniques, etc., ne marchent plus. Donc, voilà. Tout le monde fait mal, maintenant c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, vous mettez progressivement sur le terrain des dégénérescences. Bon, on en parlera après, vous allez voir. Si j'ai le temps, malheureusement, je ne sais pas, vous parlez du sang et du cœur. Alors là, vous allez voir. Donc, vous voyez, déjà à ce niveau-là, il faut être très vigilant. Donc vous pouvez avoir des eaux, bon je ne veux pas les citer, je ne veux pas faire de pub parce que je ne suis pas payé pour. Enfin vous avez des eaux comme les eaux de Montcousse, qui sont extrêmement légères, ont 18 mg litres, etc. C'est bien, ça suffit. Mais c'est des eaux mortes. Hein. Elles sont en vous payées, c'est terminé. Donc c'est la matière première avec laquelle vous allez travailler. Soit vous la purifiez, cette eau, c'est-à-dire vous allez la passer à travers les filtres. Si vous prenez l'eau du robinet, ou soit, vous prenez les eaux déjà purifiées. Alors, si vous avez dans la montagne, il y a une source, machin, tout ça, bon, c'est parfait, mais ça représente qui? Personne, pratiquement. Très peu de monde. C'est la boutique, c'est Epsilon. Donc, les eaux minérales à la source n'ont rien à voir. D'abord, ce sont des eaux médicinales. Vous avez une prescription médicale pour aller à la source. Vous allez aller à Vichy, vous allez aller à Bourgogne, vous allez aller à des choses comme ça, c'est pour soigner une pathologie. Donc on a complètement oublié tout ça. Et lorsque vous êtes à la source, vous allez boire de l'eau au griffon, c'est-à-dire à la source là, quand elle jaillit. Et là, évidemment, elle a une autre dynamique. Elle n'est pas oxydée, elle sort de terre, elle est énergétique. Et c'est un médecin un jour qui m'a dit à la Bourgogne, ah oui, effectivement, mes patients, au bout de. Parce que les cures ne passent pas trois semaines. Trois semaines. Au bout de 21 jours, ils ressortent là, ils sont beaucoup mieux, les problèmes de bronches, etc. Bon, tout dépend des coins, bien sûr. Et beaucoup mieux. Et je me demande une chose, si ce n'est pas plutôt au fait que ce n'est pas tant les minéraux qu'ils absorbent que leur énergie et leur information. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, docteur, vous avez tout compris. Effectivement, cette eau-là n'est pas encore oxydée. Cette eau-là est encore vibrante, brillante, elle a une information minérale. Bon, vous buvez le minéral, vous arrivez à l'éliminer facilement. Parce qu'il ne se métabolise pas. Ça, c'est la rigolade. Vous ne métabolisez pas les minéraux bruts. Sachez. Donc, ça fait longtemps qu'on a découvert ça. Les trucs de Vincent, Marcel Gueulet, ce sont des vieux savants français qui savaient déjà tout. Ils avaient bien s'amasquer avec les gens du film. Ça a compris beaucoup de choses. Bien. Mais je ne critique pas le film, il est très bon. Donc, vous voyez, ça, c'est important de savoir ça. Alors, vous allez dire, l'eau de robinet. Ah, l'eau de robinet. L'eau de distribution complète. Bon, ben là, c'est une catastrophe. On a cherché avant toute chose à faire une eau potable. Bon, alors, l'eau potable, pourquoi? Parce que, en fait, on a tué tout ce qui vivait. C'est une eau qui est complètement, je dirais, vidée de son principe vital, bien sûr, et on a tué tous ces braves bêtes, la prochaine ou pas d'ailleurs, pour, à travers, bien sûr, des phénomènes de stérilisation d'eau qui sont à base de chlore, d'ozone, des choses comme ça. Et en plus, la plupart des eaux, distribution urbaine, partout, il y a une espèce de dureté de l'eau qui est due au calcaire. Bon. Et ce calcium, comme on dit, le médecin dit, mais c'est très bien, ça va reminéraliser vos systèmes osseux. On en est là encore. Pas joli, mais on va en réponse. Quand il vous dit ça, et si vous le croyez, alors là, vous allez à la cata. Alors, ces eaux de distribution urbaine, il y a un facteur majeur qui est mortifère. Il y a deux choses. D'une part, ce sont des eaux stérilisées. Et là, je vous fais une confidence, c'est connu maintenant, surtout en France, par ces scientifiques-là. Ces eaux-là sont oxydées complètement par la stérilisation du chlore. Et qu'est-ce que c'est que l'oxydation? C'est aussi une eau qui a un potentiel électronique qui chute verticalement. L'oxydation, c'est dû parfois aussi, c'est dû souvent, par des oxygènes libres qui saturent complètement électroniquement votre corps, c'est-à-dire qui se tournent dévoreurs d'électrons. Donc ces électrons-là, qui sont à la puissance, je dirais, originelle de tout le fonctionnement du vivant, avec le photon, comme je l'ai dit, si ce potentiel électronique chute, eh bien, vos réactions métaboliques ne peuvent plus se faire ou très mal, et de plus en plus. Donc, vous allez sur un terrain de dégénérescence. Donc, la vie fonctionne avec l'électronégativité, ce qu'on appelle de l'électron. Et là, on va passer rapidement, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tout, dans le fonctionnement du cœur et du sang avec tout ça. Vous allez voir que c'est très facile de comprendre deux choses. D'abord, de vous réhydrater complètement tout votre système intra- et extracellulaire, parce que la plupart du temps, je le vois partout, il y a une déshydratation progressive avec l'âge. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un rapport entre l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire, et ces eaux intra- et extracellulaires vont avoir un certain rapport. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'eau à l'intérieur des cellules qu'il y a dans le milieu extérieur. Eh bien, ce rapport diminue, et effectivement, ça se voit avec l'âge. Il y a un centre ici, qu'on appelle l'aquesta, qui est une espèce de voyant rouge dans le cerveau, qui ne s'allume plus. Et c'est comme ça qu'en 2003, il y a 30 ou 40 000 vieillards, tranquillement chez eux, qui sont morts de soif, sans s'en rendre compte. Vous voyez, 10% d'eau en moins dans votre cœur ne peut pas, dans votre corps, ne peut pas un arrêt cardiaque. Personne ne s'est servi de ça, ils ne sont pas du tout, du tout, du même. On a un bon verre de robinet, ça nous fait du bien. Bon, bien sûr, pas de malheur de boire ça. Mais il faut savoir que le problème, il est grave. Il est grave parce que moi, je me suis battu contre les lobbies du minéral, ça, j'ai eu tort. Maintenant, j'en parle plus, donc vous saurez rien. Mais j'ai eu des sacrés problèmes. Parce qu'en fait, j'avais raison, c'est tout ça. Je mettais en jeu tout le commerce. Alors, effectivement, ça faisait des ordres. Alors, le problème maintenant, c'est que cette eau-là, il faut potentialiser cette eau-là au niveau électronique par tous les moyens. Et c'est là qu'on parle de la dynamisation. La dynamisation, ce n'est pas autre chose que de ramener précisément cette information qui provient de la vie originelle et qui fait naître n'importe quel bébé, un brin d'herbe, une fleur, etc. C'est cette eau-là qui est nécessaire. Nous, on n'a jamais su fabriquer un brin d'herbe. On manipule génétiquement les choses. C'est plus la peine de manipuler les gènes, puisque de toute façon, vous pouvez. Nous ne sommes plus actuellement sous la dictature de nos gènes. C'est nous qui avons le pouvoir par notre pensée. Alors, on n'a pas le temps encore de penser et de vous exposer tout ça, mais très rapidement. Maintenant, le cœur et le sang sont intimement liés, je dirais, à vos problèmes hydriques du corps. Et tous les problèmes actuellement qui concernent la déshydratation de ce corps, tous les problèmes d'hypertension, les problèmes cardiaques, et les problèmes, je dirais, d'accident cardiaque, des AVC, etc., sont liés la plupart du temps à un manque d'eau dans le corps. C'est aussi simple que ça. Et comme la médecine est absolument ignorante, ça n'a jamais été enseigné en médecine, et bien il vous file des métabloquants, des statiques, des trucs, ça, c'est une histoire de fou. Moi je vais vous dire une chose, mon père, bon, il est décédé maintenant, bon, ça arrive tout de même, hein. Et bien, il avait de l'hypertension, et j'en ai soigné plein d'hypertension comme ça, dans des séminaires, des machins comme ça. Les gens disent, oh ben moi j'ai de l'hypertension, ça marche pas, et ça, c'est un problème d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps se déshydrate parce que vous buvez mal. Et même les eaux que vous buvez ne peuvent pas être, si je peux dire, dans le tissu même du corps. Vous les éliminez directement par les vannes, la barre est vannes. Et la plupart du temps, vous savez dans le robinet, il y a en plus d'un temps du calcaire, et tout ça va provoquer des minéraux qui sont effectivement les colements. Il y a aussi ça aussi. Donc vous avez des informations qui sont extrêmement mauvaises. Et ça a commencé à des problèmes. Ça va boucher des néphrons, des reins, etc. Vous allez avoir des calculs, vous allez avoir. Puis il y a des problèmes électroniques. Et ça, on l'a remarqué, c'est le micro de Vincent qui en parle. Il a très bien démontré ça. Quand vous buvez des eaux qui sont trop calcaires, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Eh bien, il se passe un phénomène électrolytique qui est connu, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale devient une espèce de d'anode. Votre système artériel, la cathode. Il se passe un phénomène électrolytique qui est dû au calcaire de vos muscles, ce calcaire est absolument inassimilable. Eh bien, vous allez avoir un phénomène électrolytique qui fait que vous allez avoir le calcium dans votre colonne vertébrale, vous allez faire de l'ostéoporose, ce calcium de votre colonne va migrer dans le système artériel. Et faire de l'arthénosclérose calcique. On appelle ça la maladie de Paget. Ou déclinée. C'est pas que de parler de ça. Et sachez-le, c'est dû strictement à ces autres moments. Donc vous voyez tout ça. C'est encore des problèmes qui peuvent être réglés une fois pour toutes. Deuxièmement, quand on commence à parler du problème du cœur, il faut savoir que votre cœur n'est pas bon comme on l'imagine. Pas si beaucoup. Pas si beaucoup. Le cœur est beaucoup plus que ça. Et on s'aperçoit maintenant que si vous ne portez pas intérêt à votre cœur, le cœur a une symbolique très forte. C'est là où se trouve le sens affectif, le sentiment humain, l'amour. Et bien, on vient de découvrir d'une façon officielle, à savoir que c'est un couple de médecins américains. Qui a découvert ça à l'Institut Bertrand aux États-Unis, que nous avons un cerveau dans le cœur. Et vous avez des neurones vous avez autant de neurones dans le cœur qu'il y a de neurones dans le subcortex cérébral. Ah, ça, c'est encore une nouveauté. Bon, personne n'est au courant de ça, aucun médecin. On s'aperçoit que s'il n'y a pas une synchronicité, une espèce de... que les signes électriques du cœur et du cerveau ne sont pas en phase, vous avez des sacrés problèmes au niveau psycho-émotionnel. Et là, vous avez secrété des hormones, de cortisol, de machin, etc. Je vous montre un bazar, pas possible, dans votre système cardiaque. Donc, les sentiments du cœur sont extrêmement importants dans la régulation, je dirais, de votre vie biologique, les sentiments affectifs. Et c'est bien là, et j'avais parlé l'autre jour à un médecin qui m'a dit, il a fait de la cardiologie, il m'a dit, mais t'as raison en fait, mais ça ne savait pas, parce que je sais parfaitement bien que lorsqu'on ouvre quelqu'un du cœur, il y a un endroit qu'il ne faut surtout pas toucher, c'est cet endroit où se trouve ses neurones, sous peine de mort immédiate. Ah, ça veut dire ça, il y a pas mal. Par conséquent, vous avez donc à harmoniser, et ça c'est difficile, puisque la plupart du temps, votre cerveau, il fait n'importe quoi, il est dans le mental, l'intellectualisme, la colère, il est dans le vouloir, la volonté, alors que le cœur, il est dans l'affection, le sentiment, il parle au cœur. Il y aurait des signaux électriques qui sont précis, qu'on a repérés, et s'ils ne sont pas en phase avec ceux du cerveau droit, justement, ben ça commence à développer. Hein. Là, on va dire qu'à ce moment-là, ça peut être très violent. Hein. Alors, elle est dans le parc à Bruxelles, il parle de la chicote, quand on est du temps, vous pouvez. Du sol, l'autre jour. Bon, on va le dire à ce qu'il présente. Bien, donc, parlons de ça. Effectivement, j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que fait le cœur toute la journée? Il va, bien sûr, à peu près, vous voyez, à 80 pulsations par seconde, mais il est très variable. Comme vous disiez, suivant les émotions que l'on a, suivant la peur, suivant la joie, suivant tout ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas les mêmes vibrations. Eh bien, ce cœur va donc expulser, si je puis dire, le sang de la horte, et ça va aller dans votre réseau sanguin. Votre réseau sanguin, c'est à peu près 150 000 km d'artères, de veines et de capillaires. Les trois quarts, c'est les capillaires. Alors le sang sort à une vitesse à peu près de 2 mètres par seconde, vous voyez, ça c'est très fort. Et ensuite, ce sang, bien sûr, va irriguer tout le corps. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est la chose la plus importante, c'est que tous les organes, dans n'importe quelle cellule, eh bien, sont irrigués par ces capillaires. Ils sont extrêmement fins. 150 000 km, vous rendez compte, les trois quarts, ce sont des capillaires. Eh bien, le sang qui va à cette vitesse-là à la sortie du cœur, quand il arrive dans les capillaires, c'est quelques millimètres par minute qui fonctionne. Très lentement. Et là, le problème est là. Si la nature de votre sang n'est pas correcte, et bien, il ne peut plus circuler dans les capillaires, c'est là que vous faites de la cellulose, du fumier, du machin, du fumier, tout. C'est les pompes, les plombs, les têtes de tous les côtés du corps. Donc le problème, il est là, c'est rien du tout. Savoir que si on boit l'eau, si on se réhydrate, si on a effectivement l'eau qu'il nous faut, il n'y a aucun problème. Bon, et là, on a un système artériel extraordinaire. Et je vais vous expliquer la finalité de tout ça. Vos artères, vos veines, etc., bon, c'est des tuyaux. Il faut savoir que, figurez-vous, j'étais dans la plomberie. Au début de ma carrière, qui aurait fait 2 ans, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai appris des choses importantes et qui sont tout à fait opérationnelles pour votre, je dirais, votre unité interne. À savoir qu'à l'intérieur d'un tuyau, quel qu'il soit, hein, la polarité est négative. Et l'extérieur du tuyau, la polarité est positive. C'est pas là, c'est universel. Vos artères sont exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre tout de suite. Très seul. C'est une histoire de tuyau et de polarité. Ça va s'oublier. pas visqueux, il s'épaissit. Comment il s'épaissit? Parce qu'il monte donc, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Comme je vous ai dit, à l'intérieur de vos tuyaux, il y a des spirales. C'est strié d'une façon contractuelle à l'intérieur. Eh bien, pourquoi? On s'aperçoit que le cœur a une puissance de 80 watts et ce n'est pas suffisant pour irriguer 150 000 km de canalisation. Alors, comment se débrouille la nature? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites ça? Non, c'est normal? Ça veut dire que c'est hein? Ah non, enfin, il fallait que je m'arrête. Bon, j'ai l'apéro de la fin de... Eh bien, à l'intérieur, si vous voulez, comme la puissance du cœur vous serait incapable d'irriguer 150 km, il se passe là quelque chose de vraiment naturel et qui fait la base de la vie. À savoir que le sang, s'il a une fluidité, une viscosité qui est normale, va passer en tourbillon à l'intérieur. C'est-à-dire va former des espèces de vortex, comme on dit. Et qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Peut-être pas avoir le temps de raconter tout dessus. C'est la chose la plus extraordinaire qui existe dans la nature, puisque c'est avec ça qu'on extrait de l'énergie. Tous les systèmes vortexiels, aussi bien magnétiques, là vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait des antennes magnétiques, ça marche comme ça, ces vortex magnétiques, ces vortex qui sont faits par l'eau, dans les torrents, etc., eh bien, ont une énergie extraordinaire. Ce sont des extracteurs d'énergie. Et votre corps, lui, qui est thermodynamique, vous savez, on trouve tout en calories, en jus, etc., c'est un corps thermodynamique, c'est-à-dire c'est un corps explosif. Alors que le système vortexiel, en fait, il aspire de l'énergie, c'est de l'énergie implosive. C'est exactement l'inverse. Nous, notre civilisation, comme par hasard, elle a choisi l'explosion. Vous voyez, que ce soit le moteur, que ce soit la bombe, que ce soit... Je dirais, de notre nourriture, tout est fait avec des calories et des jus, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne par cette énergie-là. Cette énergie-là, ce vortex, si vous voulez, vous comprenez que c'est un système. Au départ, ça tourne un peu plus lentement, et à la fin, si vous voulez, au cône du vortex, la vitesse, mathématiquement parlant, est infinie. Qu'est-ce qui se passe là, au bout du vortex? Eh bien, il y a une fluctuation de l'espace. Et apparaît, comme par là, vos électrons et les photons, qui viennent de l'hyperespace. Donc c'est une énergie qui permet de restructurer et de réorganiser la vie, alors que le système 1 explosif la détruit. Donc on est en la balance entre les deux. Donc plus vous améliorerez ce système-là, plus vous serez en bonne santé, plus vous aurez effectivement cette vitalité. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Deuxièmement, et là on arrive à une catastrophe, c'est que si vous buvez une eau qui n'a pas ce potentiel électronique suffisant, au contraire, si vous buvez des eaux qui sont oxydées, des eaux qui sont malades, si je peux dire, vous voyez, eh bien, ces eaux-là emportent avec elles une pollution positive. Et non plus électronégative, qui est nécessaire à la vie. Et évidemment, tout ça, ça passe dans le sang. Donc vous avez une sorte d'injection, je dirais, de positivité dans le sang. L'électropositivité, c'est la pollution, c'est l'électricité qui est la plus mauvaise qui existe pour le corps. Alors qu'est-ce qui se passe? Vos parois, comme j'ai dit, sont négatives. Un plus est positif et un moins, tout se colle. Ça s'attire, un plus et un moins. Hein, c'est comme un homme et une femme. Hein. Ah, bon, c'est pour la bonne cause, ça. Ça se fait bon. Mais là, c'est pas la mauvaise. Donc, il se passe quelque chose, c'est que, en buvant principalement toutes ces poissons industriels, tous ces trucs-là, c'est abominable, ces machins-là. C'est complètement positif. Et évidemment, ça épaissit votre sang, la viscosité devient de moins en moins visqueuse, si je puis dire, Et tout se prévue, et à ce moment-là, vous commencez à avoir des sacrés problèmes, et c'est comme ça arrive les AVC, comme ça arrive au Facebook, comme ça arrive tout un tas de choses, hein, de l'artéosclérose principe, etc., et tout passe très bien. Bon, alors, je connais un peu des jeunes actuellement, je connais des jeunes de 40 ans qui ont déjà des problèmes d'AVC. Parce que quand on est, qu'est-ce qu'il y a de biologique, Coca-Cola, boisson industrielle, avec, c'est épouvantable, ils ne voient jamais nous, ils ne savent pas ça. Alors, elle a jamais enseigné. Puis, c'est pas l'embêtement de partir, il va le faire. Donc, il y a des choses simples. Donc, actuellement, on est dans cette espèce de drame, de civilisation, où ça va faire mal. Donc, moi, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'essaie de leur inculquer ce que c'est que l'eau, mais bon, on n'est jamais prophète dans sa famille, vous le savez. Enfin, ça commence à marcher un peu, j'ai mis du temps. Alors vous voyez, ça c'est un truc à surveiller parmi vos enfants, vos petits-enfants. Quand vous voyez boire ce qu'ils boivent, croyez qu'ils vont se fabriquer les pires maladies à partir de 40 ans. Donc on passe la plupart du temps, la moitié de sa vie à s'empoisonner, l'autre moitié à essayer de se guérir. C'est un peu pas ça. C'est ça le problème. Donc, il va falloir qu'on en sorte. Hein. Alors, donc, ça c'est extrêmement important, vous voyez, que mon père avait aussi de l'hypertension, ça a été très simple. Hein, mais, moi je ne pouvais pas lui en parler, parce que je ne croyais pas ce que je faisais, j'étais avant dans le pétrole, j'avais des cadres supérieurs, bien monté et tout, tellement bien sali et tout ça, il avait beaucoup d'estime pour moi, mais après quand je suis tombé dans l'eau. Là, il m'a regardé comme c'est un extraterrestre, hein, et encore. Donc, surtout que j'avais déménagé, j'étais dans une vieille ferme au fin fond de l'eau Bougonnais, et une vieille ferme qui s'appelait le bout du monde, enfin, ça ressemble là. Bon, ouais, j'avais tout fait à zéro. Mais bon, c'était ma renaissance, là, mais je ne pouvais pas lui expliquer ça, quoi. Alors mon père a vu de l'attention, il était bon vivant, machin, etc., hyper tendu, il avait du vin, etc. Alors le médecin lui donnait des vétablocans, etc. Alors il dit, très bien, mais je peux vous dire, mais pas trop, parce que le monde reste à quitter, on peut faire du mignon, etc. Il n'y a rien d'écouté, il dit, bon, là aussi. Bon. Et alors, c'est l'action de médecin qui le bat. Il a été remplacé par un autre, un jeune, mec tout fringant, qui dit, mais monsieur Colin, vous devriez boire de l'eau. Comment? Mon fils me dit toujours ça. Et la mère était comme embuscade. Elle était très impérative de ce que je faisais. La femme est toujours sensible. Ça, c'est vrai. Quand je vois le nombre de femmes au début des conférences, c'était absolument hallucinant. Et beaucoup de gens étaient jamais moins violents que ce ça. C'est vrai, je ne vois pas. Hein. J'étais très embarrassé parfois. Hein. Et alors, la mère dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire avec ton père? J'ai dit, sur les ordonnances, tu vas voir, que tu bois telle eau, comment il faut la boire, à quelle heure, machin, tout le truc, etc. Fais-lui voir ça, mais surtout, ne dis pas que c'est moi. Et là, elle a mis la question, bon, alors, d'abord, les loups comme ça, ça se voit toujours à jeun. Regarde, jamais en mangeant, surtout pas. Hein. Ça, jamais. Bon, quand je reste bien simple, c'est que quand cette eau que je mets en mangeant, elle ne sert plus à rien, puisqu'elle est liée par le mode alimentaire. Et en plus, si vous buvez de l'eau, vous allez à plus par du moment laver vos tractus digestifs, où il y a des prédastases qui servent à la digestion. Voilà. Donc, tout ça, boire de l'eau toujours à jeun. Et deuxièmement, cette eau-là, il faut l'avoir toute la journée. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure que vous buvez de l'eau, vous réactivez votre centre de la soif. À ce moment-là, vous n'avez plus à y penser. C'est votre corps qui va vous le demander, parce qu'il a retrouvé le système. Il sait comment vous pouvez être alerté, puisque vous allez avoir soif. Mais tout le monde, quand on a soif, il est trop tard, il faut voir son soif. Alors, qu'est-ce qui se passe là, si vous voulez, cette eau-là qui est pure, qui est dynamisée, bien sûr, cette dynamisation, c'est un coup de rehausser ce potentiel électronique, hein, par des systèmes, soit de vortex magnétique, comme j'ai vu, là, qui avait mon ami ramené, la fontaine magnétique, vous irez vous expliquer avec lui. C'est assez extraordinaire. Ça marche vachement bien. Et vous avez aussi des systèmes d'infection par l'eau, etc., qui fonctionnent aussi. Vous avez des systèmes de dynamisation, qu'on appelle les dynamisations violées, avec des condensateurs à circadelle, etc., de l'antenne, qui fait que cette eau aussi, c'est Marcel Violet, il y a 60 ans, 70 ans même, qui avait commencé à prouver ça. Bon. Et là, bon, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de Marcel Violet, mais c'est absolument intéressant de savoir que ce type-là était un type de l'Académie des sciences, et qui lui avait une carrière très grave, il s'est guéri par son eau dynamisée en l'espace de 3 mois. Et bien ça, il n'avait jamais rien compris comment ça avait pu se faire. Bon, il y a un problème d'article. Bon, bref. Hein. Donc, vous voyez, cette eau-là, elle est absolument indispensable que vous l'ayez sous la main en permanence. Et c'est une question d'habitude, c'est une question de réflexe à retrouver ça. Parce que cette eau-là, si vous voulez, vous faites comme ça, vous allez la voir. Alors, ça ne va pas faire l'effet des premiers jours, bien entendu. C'est quelque chose qui va s'instaurer progressivement. Bon. Cette eau, comme je l'ai écrit dans mon dernier livre, de Donald Demo, elle est en communication avec toutes sortes de monde. Et ces mondes-là, effectivement, sont des mondes originels dans lesquels, effectivement, c'est la matrice à partir duquel le vivant est né. Et ce vivant, c'est nous, dans notre incarnation. Cette biologie qui nous paraît, je dirais, matérielle, en fait, elle ne l'est pas. C'est simplement des systèmes d'énergie et d'information. Donc, il faut gérer tout ça au mieux. Et comme vous avez le cœur, et les sentiments du cœur sont des puissances considérables qui peuvent vous aider à installer un système qui devient de plus en plus harmonieux dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une pratique. C'est pas de la théorie fumeuse, machin, etc. Vous voyez dans votre vie quotidienne. Il faut rentrer en communication avec ces gens. Comme le disait Lazaro du Moutou, il faut sans arrêt la remercier avec gratitude. Quand vous buvez un verre d'eau, c'est avant tout votre conscience qui rentre dans cette eau. Alors n'essayez jamais d'utiliser des eaux qui sont déjà informées. Il y en a sur le marché. Il ne faut surtout pas prendre des eaux qui sont informées par d'autres que vous. Sachez-le. Parce qu'on sait jamais ce qu'il y a. Donc cette eau-là, si vous voulez, c'est vous qui êtes. Ici, justement, vous êtes dans cette transformation personnelle. Ça se fait tous les jours, à chaque instant, dans cette vigilance permanente. Votre corps ne demande que ça. Si vous avez les bonnes pensées qu'il faut, si vous avez effectivement des gestes qui sont dans cette bienveillance, les Grecs appelaient ça l'amoros. Ah, ça n'existe plus, ça. L'amoros, donc c'est pas une chanson espagnole, c'est pas ça. Oui, l'amoros. Les Grecs, ça a été traduit en latin après, ça veut dire A, dépourvu de privatisme. Moros, dépourvu de mort spirituelle. Vous vous rendez compte? On est loin de l'amour humain. Hein? Ça n'empêche pas. Plus vous êtes dans l'amoros, mieux vous êtes dans l'amour humain. Et à ce moment-là, c'est pour entrer ce qu'on appelle, les Grecs appelaient, dans la théophorie. Vous rentrez dans la joie de vie. Donc petit à petit, ce sont des résonances auxquelles vous pensez quand vous croisez quelqu'un dans la rue. Si vous pensez tout de suite, oh, c'est là avec sa gueule, un terroriste. Vous avez déjà gâché vos journées. Et si vous êtes dans l'amorose pendant 1 heure par jour, c'est déjà magnifique. Donc vous améliorez le sport. Vous y pensez tout le temps. Ne vous abaissez jamais au niveau des gens qui vous font, je dirais, des misères. Eh bien, comme on dit, le diable meurt de votre indifférence. Plus vous serez dans l'indifférence de ces gens-là, plus ils disparaîtront, et c'est eux-mêmes qui vont venir dans la monstre, et qui viendront dans la monstre. Surtout, ne faire jamais de prosélytisme. Jamais. Je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui. Bon, il y en a invité pour ça. Donc, si vous voulez, c'est parce que vous êtes intéressé par l'eau. Mais ce n'est pas simplement par l'eau. Il faut être intéressé par la vie elle-même. Donc cette eau-là, si vous voulez, c'est la façon dont vous allez la boire. La première eau à boire, c'est le matin en se levant. Quand vous aurez réamorcé votre sang de la soif, moi je bois de l'eau le matin, c'est pas parce que je dois en boire, pour ça du tout, surtout pas. C'est parce que j'ai soif, tout simplement. J'ai réamorcé mon sang de la soif, et mon corps a eu l'élément d'habitance, hein, j'en ai besoin dès le matin. On va prendre des parties etc., une demi-heure avant le petit déjeuner. Et puis après, dans la journée, il en va d'autres, hein, bien sûr. Une heure avant le repas, deux heures après. Vous voyez ? Tout le temps. Mais c'est votre corps qui va gérer, c'est pas vous. Petit à petit, vous sentirez votre corps dire ah, attends, c'est 8 heures. Bon, allez, on y va. Vous avez une bouteille avec vous, etc. Bon, mais bon voyage, il n'y a aucun problème. Vous avez des systèmes maintenant pour mes deux, des dizaines, 10 heures, des machins, des trucs comme ça. Bon, et alors. Aussi, avant de vous coucher, un bon verre d'eau, et là, vous le regardez ce verre. Vous imitez, je dirais, tout ce qui va se passer dans la nuit. Alors, je n'ai pas le temps de parler encore dans l'histoire, mais c'est vachement important. Hein? Là, on va faire un voyage incroyable. Et le sommeil, c'est. Les Égyptiens, non, les Grecs, après ça, il y avait le sommeil d'or. On est dans l'or, le sommeil, c'est que magnifique. Et le sommeil, qui est vraiment le seul sommeil qui est régénérateur, et qui va effectivement être très opérationnel pour vous, parce que là, vous avez un voyage énorme, c'est le sommeil paradoxal. Le reste, c'est la bricole. Donc vous pouvez, et ça, on l'apprend aussi petit à petit, réduire votre temps de sommeil, au sommeil essentiel. Les cycles, ce sont à peu près 90 minutes. Hop, après vous remontez un petit peu, et puis vous retombez dans le sommeil paradoxal. Et ce sommeil-là, si vous voulez, la nuit, eh bien, il faut l'améliorer le plus possible. Et c'est pour ça que lorsque vous vous endormez le soir, eh bien, vous faites un peu de bilan de votre amoureuse de la journée. Simplement, bien, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ce marchand ? Bon, vous trouverez toujours quelque chose, croyez-moi, il n'y a pas de problème. Je suis engueulé avec quelqu'un, ou c'est pourquoi, je crois, ça va mal, il n'y a pas trop, ça. Mais si vous arrivez à apaiser tout ça en vous-même, et d'être dans cette espèce de quiétude, de théophorie, comme on dit, eh bien, vous apercevez que votre environnement change progressivement. Et là, vous entrez dans un autre univers. C'est-à-dire que vous allez substituer progressivement une fatalité. Mais vous êtes toujours victime, vous disons, par de la providence, qui arrive par petits morceaux. Ça commence par une façon spectaculaire. Et c'est là où vous avez des synchronicités, des rencontres, des choses comme ça. Et tout vient sans effort. Comme je vous dis, la nature, l'intelligence de la nature, c'est toujours la loi du moins effort. Et vous faites de la résistance à quelque chose, vous arrivez parfois à le faire. Et vous arrivez surtout à des résultats qui sont ridicules. Laissez faire l'univers derrière, il a tous les éléments pour vous rendre et vous donner ce que vous lui demandez. Il ne demande que ça, et votre corps ne demande que ça. Donc, c'est un travail quotidien, un travail de chaque instant. Hein. C'est le petit geste qu'il faut avoir quand il le faut, au moment où il le faut. Tout ça, ça se capitalise. Hein. Mais c'est pas ce égoïste, je dis. Dans cette bienveillance d'être gentil, etc., c'est parce que vous voulez vivre en harmonie avec l'univers. Et en plus, vous donnez cette résonance, elle est discrète, silencieuse, il n'y a pas besoin de parole, et ça se passe autour de vous. Comme ça, vous avez des gens qui vont changer de même pour aller voir la famille. Et c'est un travail. Il n'y a pas besoin de faire des scores, des sprouffes, etc. Et si là, on me demande d'arrêter.
Non.
On va faire le débat.
Voilà.
Alors, donc, je crois que je vous ai donné pas mal de choses, et encore, c'est pas grand-chose, parce qu'il y avait des choses encore. Et je vais vous laisser pour les questions. Ouais, à vous maintenant. Allons-y. Alors, il faut un micro pour les gens qui sont là.
Il marche. Je vais juste mettre un jeu
un Jacques. Oui, juste mettre un vœu que l'obus n'éclate pas. Allô? Que l'obus n'éclate pas. Oui, je peux servir.
Alors, avant ma question, un petit témoignage, je passe plus souvent plusieurs mois par an à Mobile, il est hemodynamisé, que je vois en
activité.
Voilà, après tout. Et voilà, je vais en parler dans un moment. Et donc, je pratique le watsu et autres arts de relaxation aquatique. Et vous avez parlé d'informations qui passent par l'eau. Et moi, dans mes pratiques, il y a un côté, quand on jeûne, on est aussi en méditation, mais dans un certain état. Il y a un côté où j'ai l'impression que l'eau interne et l'eau externe communiquent.
Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. L'eau du corps, si vous voulez, c'est un peu le terminal de tout, de cette eau qui provient du monde entier, des océans, du monde lointain, etc. Et cette eau-là, elle est la même depuis des millions d'années, dans la corbeille des fonds d'or, des polypes, c'est la même eau. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument la protéger. C'est de sauver ce qui va se sauver. Donc, le nécessaire à la vie, c'est quelque chose par rapport à la masse d'eau, à la masse de la planète. Hein. Vous prenez à peu près 1,4 milliard de kilomètres d'eau. Ça paraît énorme. Hein. Là, si vous prenez la masse de cette eau comme étant 1 écu, hein, l'eau qui reste sur la planète, à savoir pour les végétaux, pour les animaux, pour nous-mêmes, pour les cultures, eh bien, par rapport à donc, l'étude, qui fait 1,8, hein, ça fait 1,8 centilitres, eh bien, qui reste, cette eau qui est recyclée par les pluies, qui est recyclée, etc., qui alimente nos sources, nos nappes, etc., et les rivières là, ça ne change même pas un dé à coudre par rapport à cette masse. Donc, c'est ça. Vous avez raison de dire qu'il faut aussi que c'est plus de l'extérieur. Je n'ai pas parlé depuis longtemps. Il est évident qu'actuellement, on va vers des problèmes majeurs, d'une sécheresse inimaginable, qui atteint partout. Les réserves mondiales ont baissé à peu près entre 30-40%. Moi, j'ai une fille qui vit à la Californie, c'est dramatique ce qui se passe actuellement.
Je voulais rajouter que par les soins dans nos choses, comme ça, ce qui se passe, c'est aussi une transformation. Vous avez parlé du fait que l'hérédité, c'est pas rien, en fait. Effectivement, ça va vraiment toucher toutes les couches de l'être. Et moi, je vous remercie aussi. Un grand merci à l'eau et à la vie.
D'abord, c'est ça, bien sûr.
Jacques, moi j'aimerais savoir si j'achète une eau en bouteille peu minéralisée, donc mon bon coup par exemple, je rentre chez moi, je vais la dynamiser avec quelque chose, qu'est-ce que je fais?
Alors, la dynamise avec quoi?
Comment je fais? La question c'est comment je fais pour dynamiser l'eau? Parce que alors, on jusqu'à là.
Il y a une chose qui est très importante. On n'est jamais l'accent là-dessus. Bien sûr, vous pouvez dynamiser physiquement l'eau que vous avez par des procédés dont je vous ai parlé, des procédés qui sont des systèmes vortexiels, des doubles cordes magnétiques, par exemple, comme l'appareil qui est derrière, ou par des systèmes vortexiels de l'eau, si je vous dis, puisque le vortex, comme je vous l'ai expliqué, est un extracteur d'énergie. Il rehausse le potentiel électronique de cette eau qui est le fondement de la dynamisation. Je n'ai pas le temps de faire de la démonstration de la bioélectronique, Mais pour ceux qui connaissent la myométhode, ils comprennent facilement. Et ça, c'est absolument inconnu de la médecine actuelle, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est là, justement.
C'est là, qu'on va t'attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, vous attendez le miracle absolu.
Non, pas du tout.
Alors,
voilà.
Bon.
Alors,
il faut
comment faire.
Il faut déjà savoir cette eau à peu près pure.
Oui.
Alors, bien sûr, il est possible de faire un vortex avec une cruche d'eau, si vous voulez, mais cette cruche d'eau doit être en verre neutre, non pas du cristal, pour différentes raisons.
Et bleu ou blanche?
Pardon?
Bleu, blanche, l'eau, pas l'eau qui est
bleue. Moi, le bleu, c'est très bien, mais si vous l'avez bleu, parfait, c'est une couleur qui est tout à fait celle de la vie, puisque notre corps fonctionne avec effectivement de cette lumière. Bon. Mais, peu importe, ici c'est du verre, c'est pas grave. Donc, il faut une cruche qui soit assez évasée pour que vous ayez le mouvement possible du vortex à faire avec une cuillère en bois, bien entendu, pour en acier. Et bien, à ce moment-là, vous le créez, le vortex. Hein, et vous voyez ce crochet, c'est mieux. Alors, évidemment, je vais dire que si y a que ça, c'est facile. Bon, c'est pas le procédé le plus performant, pour savoir. Parce que bien, combien de temps faut tourner le truc, machin, machin. Alors, je dirais un certain temps. Bon, mais vous aurez une eau qui sera légèrement dynamisée, c'est vrai. Mais je tiens à dire une chose. Là où l'eau est importante, c'est quand elle est mariée à votre conscience. Parce que vous pouvez boire de l'eau comme une vache à l'abreuvoir, bien souvent la fameuse loup en boire d'ailleurs. Hein, ou faire comme le petit chien, hein, lui il sait trouver tout de suite l'eau. Hein, nous, on ne sait pas encore. Alors, nous, on n'a pas ces facultés-là, parce qu'on les a tous perdus, mais c'est précisément qu'il faut les retrouver. Alors, quand on a cette conscience de l'eau, et qu'on boit cette eau en conscience, c'est là où je viens de vous expliquer tout à l'heure que, effectivement, l'eau va donc, en quelque sorte, réveiller les capteurs chez nous. Des capteurs qui vont être effectivement au-delà du monde physique, c'est-à-dire en définitive, il ne faut pas oublier que votre pensée est énergétique. Alors, je n'ai pas le temps de parler de ça, si vous voulez. Mais le pouvoir que vous avez sur la matière, et vous avez bien vu que j'ai essayé d'expliquer ça, moi je l'ai fait ce truc-là. Hein. Et j'ai fait des expériences, alors que je ne sais pas du tout. Je ne connaissais rien du tout. J'ai fait des expériences pour, si vous voulez, montrer qu'on avait un pouvoir sur la matière. Et avec des amis, alors ça remonte à 25 ans, ça, on a construit un appareil qui s'appelle le typoscope, c'est fait par un ingénieur. C'est un appareil cylindrique avec un moteur, avec des roulettes folles, hein, et qui a un programme électrique qui est aléatoire. Donc quand vous mettez en route cet appareil-là, il se balade dans tous les sens. Vous voyez. Alors si vous mettez un crayon au centre, comme on l'avait fait, sur une grande table ou un papier, il écrit une trajectoire qui est totalement aléatoire. Eh bien, l'idée, à l'époque, c'était avec un Français que vous devez peut-être connaître, qui s'appelle Jean-Pierre Girard, qui était un peu le ingénieur français, et puis un autre ami qui avait construit l'appareil, eh bien, on était un groupe, on a mis l'appareil sur la table en question, sur une très grande table, et l'appareil allait dans tous les sens. Et notre idée, c'était de le faire venir vers nous. Donc, il n'y a aucun système émotionnel là-dedans, c'est simplement le pouvoir de la pensée. Eh bien, effectivement, au bout d'un certain temps, on l'a fait venir vers nous. On voyait bien petit à petit, et on a changé les gens, on a remis d'autres, et quand vous êtes bien fixé sur cette attention, et quand vous n'y pensez qu'à ça, et quand vous voulez que la chose vienne vers vous, elle vient vers vous. Donc ça a été quelque chose qui a été extraordinaire, puisque après, ça a été fait avec des poussins, des petits poussins, qu'on enfermait dans une cage, dans un coin, on leur a montré l'appareil, hein, qui circulaient devant eux, et les coussins ont fait ça pour leur mère. Et après, on a mis à l'autre bout, et les coussins, et également, on a tiré l'appareil vers eux. Donc c'est pour vous dire que cette énergie pensive, ce que j'appelle, est quelque chose de très important que vous pouvez développer. Hein. On a fait toutes sortes d'expériences là-dessus. Je ne vais pas vous raconter le reste parce que. Oui ?
Deux petites questions. La première, au sujet du film, quand il y avait cette réunion secrète avec les scientifiques qui voulaient créer une arme chimique, oui, et qui sont encore tous malades, oui, avec l'eau potable, oui, est-ce que vous croyez que c'est justement leur pensée de destruction qui s'est mise dans ces mots et se fait
exactement. Plus haut. Exactement. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Vous vous rendez compte ? Hein ? Et vous ne savez pas. Bon. Vous vous rendez compte quand vous pensez à cette eau au moment où vous la buvez, et quand vous buvez le verre du soir, par exemple, vous le remplissez après, vous le laissez sur la table de nuit, et là vous allez dire, il va en ramener vos plus beaux rêves.
Et deuxième question, au niveau du pouvoir de la création, est-ce que il y a des études qui ont été faites pour que s'en voit la pensée sur l'eau, le verbe sur l'eau, la parole et le chant sur l'eau. Est-ce que le fait de chanter
a... Bien sûr, tout fonctionne.
Il y a
tout fonctionne. Les chants, c'est une vibration. Je vous ai expliqué comment était guérie cette femme avec un... de son cancer. Par des mantras.
Oui.
Mais elle était aussi, elle, interconnectée. Elle n'était pas passive. Vous voyez, si vous attendez tous les guérisseurs à l'air de vous, ça n'a pas marché beaucoup. Hein. Donc, il y a des gens qui vont à Lourdes, à Dunour, etc., à 100 km, ils attendent le miracle.
En fait,
c'est pas évident.
Pour la régulation de l'eau et de l'orteil, c'est un système très simple qui coûte.
Oui, de bazar.
Oui, qui coûte 15 euros et qui est sur Amazon. C'est Testa.
De bazar.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, vous renversez la bouteille,
voilà,
etc. Oui, ça, mais bon, c'est bien, mais il n'y a plus de performance que ça.
Oui, d'accord.
Mais pour commencer, mais n'oubliez pas une chose, hein. Cette eau, vous pouvez tellement l'améliorer, oui, parce que vous changez vos idées vous-même. C'est ça qui compte.
Oui, alors à ce niveau-là, effectivement, il y a une potentialisation des habitudes d'eau par l'inconscient. Et je voudrais dire, puisqu'on parlait d'eau intérieure et d'eau extérieure, qu'il y a quand même des personnes sur la planète, qui en France, qui se préoccupent d'améliorer les différentes eaux de la planète par le pouvoir de l'inconscient.
Oui, par le pouvoir de l'eau, mais l'eau n'a aucun pouvoir, c'est vous qui lui donnez ce pouvoir. Il ne faut pas l'oublier, et la nature aussi. Hein. Elle ne fait que transférer ce qu'on lui donne, aussi bien le pire que le mauvais. C'est pour ça qu'actuellement, les eaux qu'on nous donne sont des eaux qui nous mettent des terrains de dégénérescence et de déchéance. Évidemment que toutes les maladies qu'il y a actuellement, bon, moi j'ai rien d'extraordinaire. Bon, j'ai promis un médecin depuis 25 ans, et j'ai été radié de la sécurité sociale. C'est con, hein. Un jour, je vais me faire réparer une dent, on m'a dit, monsieur, vous êtes mort. Ah bon ? Ben, regardez, monsieur, il y a 25 ans, quand votre dossier ne fonctionne pas à votre âge, c'est pas normal.
Alors, je propose que l'aide...
Vous m'avez rendu pilule, des
machines. Je propose qu'on retourne peut-être encore à une question, et je voulais savoir, j'ai pu encore la lire maintenant.
Oui, je serai là si tu...
Non, mais parce que moi je propose...
Oui, je serai là.
Il y a des gens qui veulent prendre ton image, qui ont dû partir, donc voilà.
Alors,
peut-être une question encore. On fait la signature des livres, et si tu es là demain matin,
oui, je
parce que ça peut intéresser. On peut créer un petit atelier pour ceux qui voudraient, sur la dynamisation de l'eau, en poussant un petit peu plus le sujet à ton
sujet. Je voudrais inviter le sujet qui est très fort sur
le ben voilà, est-ce que ça intéresse?
Ça va, demain matin?
Ça vous intéresse?
Absolument.
C'est juste pour ressentir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On fait ça demain matin.
Trop tôt.
11h15. Alors, on va faire un regardez bien que vous n'avez pas l'atelier qui vous botte à 11h15. On peut faire à 11h15 et on affichera, enfin, mettre
à 11h15.
11h15 et on mettra à la salle, on ne sait pas encore la salle, mais on mettra à la salle au panneau d'affichage ici.
Bon, alors, d'accord. Ça, c'est où alors?
Je ne sais pas encore, parce que ça a été demandé les stages. Mais je ne suis pas loin, mais ça sera affiché.
Je suis au même galop 44, tu le tour par le.
Mais là, on va être envahi au même galop. En tout cas, alors, merci Jacques. Peut-être qu'on va arrêter pour maintenant.
Oui, oui, voilà.
Et ben, non, mais on va pas. Je remercie ces livres et on va embarquer tous les livres des auteurs du festival ce soir à la guinguette, là. Donc, il y a la signature avec Pépinement, Elima, Jacques Collin.